Alors, j'ai écrit récemment un article pour Marketing Étudiant sur le thème de la marque et pourquoi il est vraiment important d'avoir une marque vraiment forte et significative, surtout lorsqu'on est une petite entreprise ou une start-up, tout simplement parce que je dis toujours qu'on est une grande marque connue, on a les moyens de s'imposer, d'avoir un budget de communication, etc., etc. Tandis que lorsqu'on est une petite start-up ou une petite entreprise, forcément, on n'aura pas ces moyens de communication. Il faut que lorsque l'on parle de votre marque, il faut que l'on voit votre logo. Tout de suite, ça passe, bim, ça reste dans les esprits et que ça marque les esprits. Donc, en fait, c'est bien d'avoir un super produit, mais c'est encore mieux que les gens s'en souviennent. Et souvent, en fait, on le dit toujours, une image vaut 1000 mots. Et si vous avez une marque qui est beaucoup plus impactante et mémorisable que les autres, vous avez un avantage qui est non négligeable. Si vous nommez votre marque, votre produit SNCF, RATP, ça veut rien dire de tout. Par contre, si vous créez une marque qui s'appelle par exemple quel coup, qui s'appelle quel job, Airbnb, etc., etc. Donc là, tout de suite, vous avez une marque qui va être beaucoup plus forte. Alors, ça, c'est bien sûr, j'ai parlé du nom de marque, mais il y a quelque chose qui est également important, c'est le logo. Alors, le logo, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui permet de personnifier encore plus la marque, d'avoir encore plus d'impact visuel que le simple nom de marque. Alors bien sûr, une mascotte en fait, ça permet de créer une histoire, de personnaliser une histoire, de faire passer plus de messages, de décliner un univers. Par exemple, si vous prenez l'univers en fait d'Evernote, qui est une solution en fait de prise de notes que j'utilise tous les jours, et bien tout simplement, si on peut voir que Evernote a comme mascotte en fait un éléphant, tout simplement parce qu'on sait très bien qu'un éléphant ça a beaucoup de mémoire. Donc en fait, ils ont décliné tout leur logo, tout leur univers en fait autour de la mémoire de cet aspect éléphant. Et on voit que les icônes, on voit que tout ce qui est l'univers, etc., etc., est vraiment lié à Evernote. Alors bien entendu, ça peut être plus ou moins évident, l'association, hein, ça peut être plus ou moins caché. Par exemple ici, Mailchimp, forcément c'est l'historique du singe dans la solution d'emailing n'est pas tout à fait évident, mais ça donne un côté amusant. Ça rappelle le métier d'envoi de postier parce qu'en fait il a une casquette de postier. C'est le singe, c'est quelqu'un qui est plutôt intelligent, qui est plutôt agile et qui est plutôt drôle, qui est tout à fait en phase avec la marque. Et souvent, parfois, les gens se souviennent de Mailchimp comme chimpanzé. Et ça, tout de suite, c'est hyper mémorisable. Et donc, après, ils ont décliné leur mascotte avec, par exemple, des déguisements qu'ils utilisent pour des salons, par exemple, ou pour tout simplement mettre en avant ou en œuvre leur univers. Après, ça peut être réutilisé dans des dessins animés, dans des concours de graphisme qu'ils ont fait pour que les gens puissent parler de la marque. Et ça peut donner aussi une vie à l'entreprise, puisqu'en fait, parfois, ils ont fait personnifier leur logo ou personnaliser leur entreprise avec des créations de leurs clients. Ça permet aussi d'événementialiser la mascotte. Par exemple, lors de Noël, lors de la Saint-Valentin, Mailchimp en fait déguise leur mascotte avec un bonnet rouge de Père Noël ou alors avec un béret de français, etc. Ça permet également de raconter des petites histoires et Mailchimp l'a fait par exemple en utilisant une petite poupée qui font naviguer d'endroit en endroit, etc. Et après, ils font participer leurs salariés et leurs clients. Par exemple, pour le cas de Mailchimp, il y a des gens qui font des gâteaux avec l'effigie du singe. Il y en a qui ont fait du tricot, il y en a qui ont fait de la couture, il y a des enfants qui ont dessiné, il y a des petits tatouages qui ont été faits, il y a même des dessins en fait avec des encres qui ont été faits, du sable. Et après, ça permet également de symboliser la marque. Par exemple, quand on veut échanger d'un produit à l'autre, au lieu d'avoir un M Magento qui est vraiment pas facile à reconnaître, on voit le singe qui a plutôt cette valeur sympathique, etc. Voilà. Et après, bien entendu, ça permet de réutiliser ça dans la plateforme et sur les médias sociaux, donc dans le logiciel pour le cas de Mailchimp, hein, mais également pour Facebook, Twitter, etc. C'est vraiment super simple. Alors, ça permet vraiment de personnaliser, donner un aspect humain, un aspect drôle, parfois un peu décalé, qu'on a du mal à faire passer uniquement avec un simple logo classique. La mascotte est vraiment bien. Alors la mascotte peut vivre avec le logo, c'est-à-dire qu'on peut avoir un logo et la mascotte en fait qui arrive derrière. Et si vous voulez en fait essayer de trouver des idées, moi je vous conseille d'utiliser un site internet qui s'appelle portrait-chinois.com. Portrait-chinois.com et qui permet en fait de savoir à quoi ressemblerait votre marque. Et vous dit voilà, si votre marque était un mammifère, ça serait lequel? Si c'était un chien, ça serait lequel? Si c'était un poisson, ça serait lequel? Si c'était un oiseau, ça serait lequel? Si c'était un primate, ça serait lequel? Etc. etc. Donc ça en fait, ça permet de pouvoir travailler un petit peu sur sa mascotte. Alors bien sûr, il existe plein de mascottes. Alors il y en a qui sont très connus, le Malabar qui a changé, on a vu, hein, si vous regardez le logo de Malabar, logo Malabar qui a vraiment évolué au cours des années. Au départ, c'était le Malabar, le vrai Malabar, ensuite ça a été un chat, donc en fait ça évolue énormément. Le logo doit être en phase avec ce qu'on veut dire. Au début, le premier logo de Malabar, c'était un mec plutôt, on va dire, un petit peu gros, un petit peu avec une mèche pas, un petit peu de rocker. Et il est devenu après le mec avec vraiment une coiffure un peu plus moderne. Il y a vraiment eu une évolution des logos au fil du temps. On passait d'un gros Malabar à quelqu'un qui est plutôt moderne et ensuite passer à un chat. Donc là, c'est pour vous montrer que la marque peut évoluer et changer. Vous avez également, par exemple, si vous vous souvenez, Haribo, avec son petit bonhomme là, aux cheveux gris, qui est décliné sur tous les paquets et qui permet de décliner la marque à la fois avec le logo ou sans le logo. Si on trouve aussi des mascottes, par exemple Android, c'est une marque avec un petit Android, un petit droïde, qui est vraiment, vraiment facilement reconnaissable. Walibi, c'est un kangourou. Il y a vraiment comme ça beaucoup beaucoup de différentes mascottes qui permettent comme ça de vraiment de donner vie et de pouvoir en fait personnaliser la marque. Et c'est surtout important par exemple quand vous êtes dans le grand public. Alors dans le domaine du B2B, c'est un peu moins vrai, mais pourtant par exemple ici vous avez le logo Ifici pour la solution de CRM, tout simplement qui rentre dans l'univers du sous-marin. Pourquoi? Parce que tout simplement on va aller explorer ces données et exploiter ces données qui sont cachées. Et l'aspect sous-marin, bathyscaphe, ça rentre un petit peu dans cette idée-là. Ben, je vais aller chercher les données cachées. La petite mascotte, c'est vraiment intéressant. Si vous Nestlé pour les enfants, ben, c'est une espèce de petit singe bleu. Ça permet tout de suite de donner un petit peu un côté câlin. Si le singe bleu, la petite mascotte bleue, ben, c'est un petit peu la sécurité, la couleur de la sécurité. Et en même temps, en fait, c'est la petite mascotte, c'est le doudou qu'utilisent en fait les enfants. Voilà. Donc votre travail, si vous n'avez pas encore une marque très forte, même vous pouvez le rajouter après. Par exemple, pendant quelques années, j'ai travaillé chez Ciel, les logiciels de comptabilité. Et tout simplement, en fait, pendant des années, on avait Ciel avec un colibri. Un colibri, un petit oiseau qui évoquait en fait la légèreté, la simplicité, l'agilité. Et donc c'était un petit peu cet esprit-là qui est arrivé pendant des années. C'était de dire bah ok d'accord, ciel c'est le petit oiseau, etc. Donc en fait d'autres éditeurs après sont mis par exemple à mettre des chiens ou à mettre d'autres systèmes qui soient en fait en phase avec la marque. Alors bien entendu, à chaque fois, selon la direction marketing, les orientations, la mascotte peut apparaître, disparaître, mais c'est quand même intéressant de le faire. Donc pour créer une marque forte et intéressante, n'oubliez pas, ajouter une petite mascotte en plus de votre logo. La deux, c'est ce que je disais juste auparavant, c'était la couleur. Il faut véritablement savoir que les couleurs, nous les associons à des thématiques. Une couleur rouge ou une couleur jaune ou une couleur bleue, c'est pas du tout la même chose. Comme je le disais, le petit ours là, la petite bestiole, le petit logo de Nestlé pour les aliments pour bébés, ben c'est en bleu. Pourquoi? Parce que bleu, c'est synonyme de confiance, de force. Et c'est là en fait qu'on retrouve par exemple HP, Dell, qu'on trouve Oreo. aussi, Facebook, Vimeo, etc., etc. C'est la confiance. Tandis qu'en fait, le jaune, c'est plutôt l'optimiste, la chaleur. On voit par exemple, c'est Subway, c'est Best Buy, c'est aussi un petit peu les promotions, c'est McDonald's. Tout ce qui est plutôt orange, c'est plutôt l'amitié. C'est des choses comme par exemple Amazon, il y a un peu d'orange, c'est Fanta, c'est Blogger, etc. etc. Plutôt le violet, le gris, c'est plutôt la créativité. Il y a Yahoo, c'est Barbie, c'est tous ces éléments-là. Le vert, c'est plutôt associé à l'écologie, à la croissance. Par exemple, bon, il y a BP, il y a FEC, comme on le voit, il y a quelques secondes. Tout ce qui est plutôt gris, c'est plutôt lié au calme, à la sécurité. C'est plutôt Apple, c'est Puma, c'est Nike. C'est vraiment les éléments qui sont assez simples. Donc vraiment, quand vous choisissez votre charte graphique et votre mascotte, choisissez les bonnes couleurs au message que vous voulez faire passer. Attention bien sûr aux associations de couleurs. Un logo ou ne serait-ce que n'importe quelle création graphique, c'est trois couleurs maximum. Autrement, en fait, c'est tout simplement l'effet sapin de Noël et ça devient trop de couleurs, tue la couleur. Vous avez des idées d'associations de couleurs, vous allez aller sur color.adobe.com et là en fait vous pouvez choisir avec une palette de couleurs les couleurs complémentaires ou session avec un s.edu/color-calculator qui permet en fait de voir un petit peu quelle couleur graphique il faut choisir. Alors la troisième chose, c'est qu'il faut faire attention à choisir un design qui n'est pas has-been dès son lancement. Les chartes graphiques, c'est véritablement comme des vêtements, il y a véritablement une mode. Il y a une mode et si on ne fait pas attention, on peut devenir has-been très rapidement. D'ailleurs, les meilleures chartes graphiques, généralement, celles qui sont plus tendances, sont celles qui vont se démoder le plus rapidement possible. Moi, je l'ai vu quand j'ai travaillé chez Sage, l'éditeur de logiciels de gestion, pendant quelques années. On a eu une charte graphique qui a été très moderne et très vite, en fait, elle est passée un petit peu has-been parce que le flat design est arrivé par là. Le flat design, c'est des designs un peu plus plats et pas en fait des designs représentatifs, hein. Si vous regardez un petit peu les icônes sur les logiciels, vous verrez qu'en fait, le flat design a véritablement complètement ringardisé certaines icônes. Avant, les icônes étaient très ressemblaient beaucoup beaucoup à la réalité. On essayait de faire coller les icônes à la réalité. Donc c'était un petit peu le réalisme d'avant où une disquette ressemblait à une disquette, un iPod à un iPod. Et maintenant, on est plutôt dans le figuratif. Et donc en fait, c'est quelque chose qui est très plat, pas de relief. Et surtout, en fait, on évite tout ce qui est dégradé de couleurs qui était pourtant très 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 utilisé auparavant. On avait des dégradés, on avait des effets de transparence, etc. etc. Donc aussi au niveau des logos, hein, c'est la même chose. Je vous ai parlé tout à l'heure des sigles. Les sigles tels que RATP, SNCF, c'est devenu totalement has-been. On va plus appeler son entreprise comme ça. À la rigueur, sauf si c'est significatif, mais autrement, on ne fait plus. La tendance est vraiment la signification des marques au son. On voit comme pour le prénom des enfants, on voit que les prénoms des enfants sont de plus en plus courts. On dit plus Léopold, on dit Léo. On voit tous ces éléments-là qui font que on essaie de jouer sur les sonorités, la simplicité de la marque. Par exemple, Airbnb, en fait, il y a une signification claire. C'est au début les fondateurs et en fait ils proposaient un lit gonflable dans leur appartement. Et le petit déjeuner. Et donc c'est pour ça que c'est devenu Airbnb, parce qu'il proposait un airbed et le petit déjeuner. Airbnb vient de là. Et leur logo, si vous le regardez, vous verrez que tout est en fait est en flat design. Alors bien sûr, il y a des choses en plus. Il y a un petit peu l'aspect émotionnel avec souvent un logo qui est parfois tracé à la main en dessin, ce qui permet tout simplement de donner un côté un peu plus humain, un côté plus chaleureux. Voilà. Au niveau des graphismes, comme je le disais, le flat design, donc faut éviter tout ce qui est dégradé, glossy, le réalisme. Si vous commencez à faire quelque chose qui soit un peu comme ça, vous êtes tout de suite un peu has-been par rapport aux autres. Vous pouvez comparer comme ça les chartes graphiques de l'iPhone, si vous aviez un iPhone ou un iPad. Vous comparez il y a 5-6 ans les icônes de l'iPhone et les icônes de maintenant, vous direz ah ouais, c'est un petit peu vieillot. Ou dans des vieux logiciels, des vieux Windows, vous verrez que vraiment c'est devenu très 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 changeant. Et même au niveau des logos de Windows, hein, au début c'était un petit peu figuratif, il y a des effets ombrés, etc. Et puis maintenant ils sont devenus aussi très flat design. Alors après il y a la police de caractère. La police de caractère, en fait, elle aussi, elle donne un message. Si vous comparez en fait la police de Microsoft entre le début et la fin, vous verrez qu'en fait ils sont passés d'un gris qui n'était pas très beau, ensuite à un noir foncé. Maintenant, en fait, on voit bien que la police de caractère toute noire, toute dure, devient un petit peu has-been. On est plus quand même plutôt sur de la police un peu gris foncé ou noir un peu plus clair. On n'est plus dans blanc ou noir, on est un petit peu dans les intermédiaires, dans les couleurs en fait de texte. Et il suffit de regarder quelques logos, vous verrez que chaque logo a une créativité particulière. Par exemple, Walt Disney, c'est écrit comme à la main. Par contre, en fait, Yahoo, le logo, ben, il est tout en majuscule. Vous avez également, par exemple, IBM qui était très écrit comme une matrice, etc., etc. Donc vraiment, ça peut jouer aussi à quelques petits détails. Par exemple, en fait, si vous écrivez votre marque tout en majuscules, par exemple, si j'écrivais conseil marketing avec uniquement des majuscules et tout en majuscules, ça donnerait un aspect un petit peu sérieux, un petit peu impersonnel. Si je mets un C majuscule à conseil et un M majuscule à marketing, à ce moment-là, bah, j'essaye d'avoir un truc qui est un peu plus user-friendly quand même, mais qui reste quand même quelque chose de sérieux. Si au contraire, bah, je mets conseil marketing tout en minuscules, ça donne plus de proximité. Donc en fait, le fait de mettre une majuscule ou de ne pas mettre une majuscule, mais aussi une signification en termes de proximité avec la marque. Pareil, actuellement, en fait, de plus en plus, on écrit en sans-sérif plutôt qu'en sérif. Alors, sans-sérif, c'est tout simplement qu'on a des bâtons sans, en fait, des petits prolongements. Par exemple, Times New Roman, c'est typiquement une police avec sérif, c'est-à-dire qu'en fait il y a les petits bouts derrière, tandis qu'en fait sans sérif c'est tout à fait Arial. Et généralement on préférera des polices de caractère comme Helvetica, comme Arial, comme Calibri. Toutes ces polices-là en fait qui sont un petit peu plus rondes en fait, Calibri Light, Arial, éventuellement du Verdana, mais en tout cas du Helvetica aussi, sont des polices qui sont beaucoup plus à la mode et beaucoup plus faciles à lire en fait. Parce que le but tout simplement c'est d'avoir plus une meilleure lecture. On sait très bien qu'une police de type Arial, de type sans-sérif, hein, de sens large, est beaucoup plus facile à lire qu'en fait les polices de caractère plus complexes. Voilà. Alors donc j'arrive à cette petite conclusion. Comme je vous le disais, trouver une marque forte, c'est pas réservé uniquement aux grandes entreprises, c'est réservé également aux startups, aux PME, puisque tout simplement une marque qui va vraiment être pertinente va vous permettre en fait d'être beaucoup plus visible. Donc il y a le nom de marque qui est important, et là il y a beaucoup d'articles sur le site conseilmarketing.fr avec des méthodes de brainstorming pour trouver les bonnes marques et des bons noms de marque, mais c'est également après le design, la représentation graphique, et n'hésitez pas à faire appel à plusieurs agences. J'ai eu plusieurs expériences dans le domaine, et c'est vrai qu'il faut mettre en compétition une à trois agences, enfin plutôt deux à trois agences. Alors n'en faites pas une compétition avec 50 agences, sincèrement ça sert à rien du tout, parce que vous n'allez pas avoir des gens qui vont travailler à fond sur le concept. Généralement quand vous dites voilà il y a deux, vous êtes deux ou vous êtes trois, et de toute façon vous avez une chance sur deux, une chance sur trois de travailler le concept, donc travaillez vraiment bien le concept. Ça sert à rien de faire venir 5-6 personnes parce qu'ils vont travailler pas à fond, ils vont pas travailler sur le concept suffisamment. Après, au niveau du brief, donc c'est super important de commencer par avoir un brief écrit. C'est-à-dire que vous écrivez sur un document les valeurs de la marque, votre vision, vos plus par rapport aux concurrents. Éventuellement, vous donnez des exemples de marques que vous trouvez sympas dans d'autres secteurs d'activité, etc., etc. Donc laissez bien sûr super libre les personnes en face de vous, hein, ne restreignez pas leur créativité. Vous pouvez juste indiquer des limites en disant voilà, actuellement notre concept. Et notre site internet, il est plutôt orienté sur le vert. On voudrait continuer à garder cette marque-là, mais après, vous pouvez tout faire. Vous pouvez dire, par exemple, nous, on veut une mascotte, ou alors on veut une marque qui soit vraiment forte. On veut donner telle image. On veut que les clients changent d'avis sur nous. Notre marque, elle a tel avis maintenant, et on veut qu'elle ait tel avis dans le futur, etc., etc. Donc, en fait, faites un brief. vraiment écrit, qui est vraiment précis sur ce que vous voulez faire, ce que vous attendez en fait de cette marque, les valeurs qu'elle doit donner. Et une fois que vous avez fait ce brief-là, qui fait à peu près, allez, on va dire, allez, 2-3 pages, 3 pages minimum, hein, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ensuite, en fait, vous avez bien sûr la première discussion avec l'agence, et là, vous présentez le brief. Alors, bien entendu, vous reprenez un petit peu les différents chapitres que vous avez faits sur l'historique de la marque, les valeurs, les messages, le futur de la marque, pourquoi vous voulez changer de marque, quels sont les objectifs, les déclinaisons, où elle va être utilisée, blablabla. Après que vous avez fait ça, normalement l'agence elle est là avec vous et elle discute et elle reprécise un petit peu les choses et elle vous repose quelques questions. Donc c'est important d'avoir un échange comme ça en vrai de vrai et de pouvoir discuter et leur donner des pistes. Alors n'oubliez pas, généralement en fait quand on est discuté comme ça à bâton rompu, on oublie un petit peu les sujets et l'heure qu'on a consacrée ou l'heure et demie qu'on a consacrée à briefer l'agence, on va peut-être oublier des choses. Et moi j'ai déjà vu plusieurs fois, on oublie des choses. Et donc ce qui est important c'est prendre des notes et rajouter dans brief après d'autres choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça, c'est intéressant. Voilà. Une fois que vous avez fait ce premier brief à l'agence, ben, généralement, ben, il y a un certain temps qui se passe, entre une semaine et 2 semaines, où ils rendent en fait des propositions. Alors bien sûr, généralement, vous vous déplacez dans l'agence, ou alors ils viennent chez vous voir, ils vous expliquent en fait le concept, etc., etc. Alors généralement, un des trucs des agences, c'est commencer par un concept qui est pas extraordinaire, et là vous dites, oh là là, c'est pas terrible, et puis après, ils vous présentent le vrai concept. C'est une technique en fait de vente qui est assez connue. C'est-à-dire que pour faire accepter une idée au départ, on présente quelque chose qui est moins bien au départ et ensuite on propose autre chose. Et là tout de suite vous dites ah ouais c'est bien. C'est pour ça en fait qu'il faut toujours passer par au moins 2 agences parce qu'autrement en fait vous allez prendre la solution qu'on vous propose. Voilà, qui a été orientée par l'agence. Il existe également aussi, alors juste une idée de budget, hein, c'est vrai que les gens me demandent un petit peu combien ça peut coûter. Alors c'est vraiment très variable que vous passez par une grande agence ou une petite agence. Généralement, il faut compter entre, on va dire, allez, entre 15 et 30 000 euros pour un retravail de marque. Alors bien sûr, dedans, vous avez le logo, vous avez généralement un petit dessin animé, vous avez un redesign de plaquettes, vous avez un redesign de carte de visite, vous avez une signature de carte de visite. Bref, vous avez le lot complet, le package complet qui vous permet en fait de refaire votre charte graphique, y compris, généralement, vous avez des stylos, vous avez aussi dedans des bloc-notes éventuellement. Enfin bref, vous avez tout le matériel que vous avez dedans. Donc comptez grosso modo entre 15 et 30 000 euros, voire beaucoup plus pour votre charte graphique. Vous pouvez passer bien sûr après sur des sites low cost comme 99 Design hein, par exemple, qui existent, qui vous permettent de changer des logos. Alors l'avantage c'est que vous allez avoir beaucoup de propositions. Hein, Y a pas à dire, hein, vous avez pas mal de logos. L'inconvénient c'est que la créativité souvent n'est pas au rendez-vous, vous êtes quand même vraiment c'est pas aussi bien que lorsque vous avez une agence. Et après, pour les déclinaisons, ça va être quand même moins sympa, c'est-à-dire que vous allez avoir un logo, mais après, quand vous allez devoir créer tout ce qui est par exemple packaging, par exemple carte de visite, etc., etc., vous n'allez pas forcément avoir tout en raccord. Alors, il y a des choses qui sont sympas, hein, ça, y a pas à dire, avec souvent de la créativité. Le problème, en fait, c'est que vous risquez de vous retrouver avec un logo qui est d'une couleur, et ensuite vous allez vous retrouver avec le reste de votre site internet qui n'est pas tout à fait en phase, ou alors un logo qui est super top, et puis le reste qui n'est pas au top. Donc, moi, je pense qu'il. Bon, c'est vrai que vous pouvez travailler avec uniquement un logo qui est fait par des sites de logo low cost comme 99 Design, mais ou Créates, c'est aussi un autre site internet, hein, Créates, voilà, qui est un petit français, hein, qui est assez intéressant. Vous pouvez trouver des idées de logo, de mascotte, etc., etc. Donc c'est assez intéressant. Donc en fait, vous avez pas mal d'exemples sur ce site-là aussi. Voilà, hop. Donc vous pouvez générer ici des idées également de logos, de création, etc., etc. Donc c'est intéressant aussi, mais parfois vous allez être déçu parce que vous avez un super logo, mais après il y a la déclinaison à faire sur les cartes de visite, sur les cartes, sur le site internet, éventuellement même vous avez la déco de l'entreprise, etc., etc. Donc en fait, je vous conseille quand même plutôt de faire appel à une agence qui va vous faire tout de A à Z et qui va vous accompagner parce qu'après il faut du sens parce que vous allez décliner votre logo et votre concept sur des PowerPoint, sur des modèles Word, sur des fichiers Excel, tous ces éléments-là en fait auxquels on ne pense pas et si vous n'êtes pas un petit peu accompagné, vous pouvez vous retrouver avec un petit peu de dissonance au niveau du contenu. Voilà. Mais bon, ça peut exister. Moi je connais des gens qui ont fait appel à uniquement des agences en ligne pour la réalisation de logos. Après, moi, j'aime bien passer quand même par une agence qui permet en fait d'avoir une proposition, qui me permet de discuter, qui me permet d'échanger et après de travailler sur une offre vraiment qui est complète et pas uniquement sur un logo et après devoir retravailler soi-même sur l'ensemble du site internet. Voilà. Donc voilà, on est arrivé au bout de ce petit enregistrement sur comment on va avoir une super charte graphique et on va tout simplement pouvoir se différencier de ses concurrents.